Alors voilà, juste quelques mots encore en introduction donc de cette soirée sur le thème de la retraite. Un petit mot pour commencer, un petit mot d'humour. J'ai regardé un petit peu quelques mots qu'on peut voir comme ça sur Internet lorsque on tape tout simplement le mot retraite. Alors la première chose qui tombe, est-ce que vous savez, vous avez une idée de... Première chose, si vous tapez sur Google, le mot retraite, qu'est-ce qui arrive en premier? Non, non, c'est les pensions de retraite. La caisse de retraite, etc. Voilà, c'est vraiment tous les premiers, c'est ça, combien je vais avoir. Hein. Et après, on trouve un petit peu d'humour. Alors, les 10 commandements du retraité, il y en a plusieurs versions. Vis pour te reposer. Aime ton lit. Si quelqu'un vient te voir pour se reposer, aide-le. Repose-toi le jour pour pouvoir dormir la nuit. Le travail est sacré, ne le touche pas. Travaille le moins possible. Ce qui doit être fait, laisse-le aux autres. Ne fais jamais demain ce que tu peux faire après-demain. Du calme, personne n'est mort en se reposant, mais tu peux te blesser en travaillant. Quand tu ressens le désir de travailler, assieds-toi et attends qu'il passe. N'oublie pas, le travail c'est la santé, donc laisse-le aux malades. Encore un petit billet d'humour. Enfin, en retraite, tu vas pouvoir commencer à bosser. Tes petits-enfants n'ont pas fini de te faire courir. Je te souhaite une belle retraite active. Alors la retraite active, ça a été repris, ce slogan, par le ministère de la Santé et des Solidarités. Vous avez peut-être reçu ça. Pour ceux d'entre vous qui sont à la retraite, apparemment, depuis 2016, c'est sous forme d'un petit passeport, passeport pour une retraite active.
Ils m'ont oublié. Donc...
Alors voilà, peut-être certains ont été oubliés, mais apparemment, disons, ça devrait être a priori distribué à assez grande échelle. Voilà, vous pourrez le lire si vous voulez tout à l'heure, je le laisse là. Voilà. Et puis, alors peut-être de façon un petit peu plus... Voilà, plus modéré. Je te souhaite, alors c'est un collègue qui s'adresse à un de ses anciens collègues. Je te souhaite une bonne retraite. Une nouvelle aventure t'attend, loin de nous, ta retraite bien méritée. Telle que je te connais, il n'est pas sûr qu'elle soit tellement plus reposante que ne l'a été ta vie professionnelle. Il faudra revenir souvent pour nous raconter tout ça. Et raconter, partager, avoir donc... quelques témoignages, c'est aussi ce qu'on veut faire ce soir. Alors, dans un premier temps, les intervenants vont se présenter. Voilà, très courtement, on les connaît. Donc, ils vont peut-être justement nous dire peut-être une anecdote croustillante qu'on ne connaît pas trop, je ne sais pas. Ou alors, des fois, on croit connaître aussi. Hein. On dit, ouais, on se connaît parce qu'on se voit, qu'on se croise, donc voilà. Et puis ensuite, il y aura donc ce tour de table sur la question de la retraite, hein, sous forme donc de témoignages. Personne n'est évidemment expert de la question. Il y aurait des spécialistes, effectivement, pourraient nous parler. Voilà. Mais là, on sera très proche de la réalité comme ça. 5 minutes par intervenant. Et puis ensuite, il y aura 10 minutes de questions entre les intervenants eux-mêmes de la table ronde qui se questionneront, voilà, 10 minutes, 5 minutes, on verra. Hein. Et puis après, un temps qui sera ouvert aussi pour qu'on puisse partager tous ensemble, poser des questions, réagir, faire remarquer quelque chose. Et puis, on conclura encore la soirée par peut-être un court temps de prière et puis un dernier chant. Voilà, ça vous va comme programme? De toute façon, c'est ce qu'on a décidé. On va... Parce que là, si quelqu'un dit non, alors bon, on va changer. Voilà. Donc voilà, donc il y a un ordre, hein, il y a un ordre dans lequel vont intervenir les orateurs. Donc c'est Geneviève qui va commencer par se présenter.
Alors voilà, je vais présenter. Alors Geneviève Radloff, je connais la plupart des gens ici, mais pas tout le monde. Pas encore. Enfin, c'est sympa d'être venue ce soir. Donc, je suis la femme de Mathias. Je viens du Canada, donc ça fait que mon parcours professionnel a été quelque peu atypique. On en parlera après dans la partie témoignage. Nous avons 3 enfants et une petite fille. Donc, effectivement, peut-être que la retraite va être plus active de ce côté-là. En tout cas, je l'ai vu sur WhatsApp cette semaine et elle court. Ça fait un mois qu'elle marche, mais non, elle ne marche plus, elle court. Donc elle est toujours très occupée, elle a toujours quelque chose à faire. Ça promet. Autrement, je crois que c'est tout ce qui me faut bien en guise de présentation.
Francine ?
Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je crois que ce n'est pas le cas, donc je m'appelle Francine Daniel. Alors, ma petite anecdote, je suis fille unique. J'ai grandi dans une famille un peu chaotique du fait du divorce de mes parents. J'avais 4-5 ans à l'époque et du remariage de ma mère. Donc, j'ai vécu quelques années difficiles dont je garde un souvenir assez dur, on va dire. Mais les années passées, j'ai trouvé une belle stabilité avec le Seigneur et dans mon mariage. Et maintenant, j'ai 2 grands-enfants, une belle-fille et 2 petits-enfants.
Claude.
J'aurais presque envie de dire tout a commencé à la bonne nouvelle. Puisque depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est ici le parcours, quoi, en quelque sorte. Les parents nous ont amenés là, parce qu'ils cherchaient une assemblée, ils ne connaissaient personne. Et l'origine, maman origine du Bas-Rhin, mon papa ici, et ils ont découvert la bonne nouvelle quelque part en ville. La grande rue, les immeubles ont été rasés, il paraît que c'est là-bas que ça a commencé. Voilà. Et donc, c'est le terrain de vie, en quelque sorte. Et après, ben, il y a eu l'apprentissage. Beaucoup de jeunes de mon âge à 14 ans partaient en apprentissage, faisaient un CAP à 17 ans. À 17 ans, on avait un travail, un métier, un salaire et une dignité et une fierté. J'étais vraiment fier à 17 ans de faire partie des adultes, des gens, je ne sais pas comment il faut dire, des gens bien, quoi. C'était cette mentalité qu'on avait à l'époque, ouais. Et après, il y a eu le parcours de vie, évidemment. Changement au retour du service militaire, suite au conseil de Jean-Paul Rupp, qui était déjà à Peugeot avant. Il m'a dit, viens, tu seras mieux là-bas. Et je l'ai écouté, seulement c'était 68. Alors il fallait que j'attende que ça se calme. Et j'ai pu arriver que seulement au mois de juillet. Voilà. Au mois de juillet, les portes se sont rouvertes parce qu'il y avait... Vous savez ce qu'il y avait en 68, hein, de toute façon. Et le parcours a continué ainsi. Et j'ai dû sortir, j'ai dû quitter, je l'ai raconté avant, 3 ans plus tôt, parce qu'il y avait une baisse importante de régime dans les années 2000, par là, 2003. J'étais justement dans un créneau où j'avais une comptabilité de 15 ans de travail d'équipe, parce que j'ai aussi travaillé de journée. Et comme j'étais dans le créneau, on m'a dit... Ça y est, tu pars, voilà. Tu pars à 57 ans. Merci.
Oui. Merci, Claude. Ouais. Oh,
j'aurais voulu continuer, c'est rare, parce que les gens sont contents de partir. Mais moi, j'avais vraiment prévu d'aller à 60. Parce que j'avais changé de métier aussi, j'ai oublié de dire. Les 15 dernières années, j'ai changé de métier. Donc, il y avait des choses à apprendre, à découvrir. Et ça m'a surpris qu'on me mette dehors, quoi.
Ok, merci Claude. Liliane.
Alors, j'ai pas besoin de me présenter non plus. Je sais pas trop ce que je peux vous dire en guise de présentation, sinon que, effectivement, nous aussi, on est arrivés à l'église ici, mais on avait 9 ans, Edith et moi, puisque, voilà. Et depuis, ben, on n'est jamais reparti. Enfin, je suis jamais reparti. Et le reste, je vous le dirai après, je pense. Ouais.
Et Mathias.
Nous sommes donc, je dis toujours jeunes retraités, des vieux qui viennent d'être à la retraite. Voilà. On travaille jusqu'à 67 ans. Ce qui était, bon, on a les enfants, etc., mais à distance, c'est pas mal, 3 heures de route, donc on est relativement protégés. Hein. Je crois une particularité, c'est que dans ma vie, je crois que j'ai déménagé une vingtaine de fois, donc finalement, je suis bien partout. Ce qui vous marque aussi quand même comme voilà, pour vous adapter à des nouvelles situations. Voilà.
Merci. Donc on va passer maintenant au cœur du sujet, Donc la retraite, voilà, vue par Geneviève.
Alors, on nous a proposé de dire comment nous vivons la retraite. Je dirais que le premier avantage, c'est de ne plus devoir mettre le réveil tous les matins. Je ne fais pas du matin. Alors, j'ai galéré pendant 40 ans. Tous les matins, souvent, c'est à 6 heures pour partir au travail. Ça, je dirais que c'est déjà une bonne chose. Quand on n'a pas du matin, c'est vraiment un bonheur. Moi, je dirais, bon, personnellement, je vais assez bien. Il y a une chose que je dirais, et je comprends ceux qui souffrent. Je ne sais pas si on peut appeler ça un manque d'identité, une perte d'identité. Ceux qui sont vraiment à fond dans leur métier, et puis tout d'un coup, on n'est plus. Et on ne sait pas qui on est. Je dirais que moi, j'ai changé suffisamment de fois de métier. Vous avez entendu mon témoignage, j'avais dit mon rêve était toujours d'enseigner et j'étais frustrée quand je n'ai pas pu, mais j'ai pu travailler dans d'autres domaines. Alors j'ai commencé déjà en Suisse, quand j'étais dans le Jura, à enseigner les adultes, ensuite souvent des cours privés, des gens qui voulaient apprendre quelque chose. Et puis après, on a travaillé dans les éditions. Avant ça, j'avais travaillé dans la documentation pour des logiciels. C'était une entreprise qui produisait des logiciels et ils s'étaient rendu compte que les informaticiens, quand ils écrivaient la documentation, personne n'y comprenait rien. Ils étaient tellement fiers de le logiciel qu'ils disaient tout et puis on ne comprenait rien. Donc ils avaient commencé en Allemagne à l'époque à employer des gens avec une formation pédagogique pour écrire ces manuels d'utilisation. Alors je rédigeais en français et en anglais. C'était aussi un défi, surtout qu'on avait des enfants à l'époque, c'était à 50%. Et après ça, quand nous avons déménagé à Mulhouse, ben, c'était dans les éditions. Donc c'était de nouveau quelque chose tout à fait autrement que l'enseignement. Fast forward. En Suisse, j'ai quand même réussi après, d'abord enseigner des adultes, ensuite dans une école privée, ensuite dans l'école publique. Toujours l'enseignement va être toujours différent. Et chaque année, je devais changer de programme, changer de place. Et bon, il y en a qui en profitent, hein, c'est clair. Il y a un étranger là, on lui donne ça. Mais bon, c'est formateur, on apprend énormément de choses à faire ce genre de choses. Mais je crois que ça m'a un peu détachée de tel métier, de telle école, de telle façon de faire les choses. C'est sûrement un avantage. Je suis désolée, je n'ai pas vu quand j'ai commencé. Mais autre chose, on n'avait pas. As-tu voulu savoir s'il y a des manques dans l'église? Et je dirais que non, je trouve que dans cette église, c'est ouvert. Je trouve que vraiment, on ne se sent pas du tout brimé parce qu'on est plus âgé. Il y a le groupe de jeunes. Malheureusement, on ne peut pas y aller. Mais on a vu pour tout le reste, c'est assez ouvert et je trouve ça chouette. Plus le fait qu'il n'y a pas de pression. Si on n'est pas dans telle activité, d'y aller. Ben, c'est chouette. Et puis, on a parlé de mentorat. C'est une chose qui me tient vraiment à cœur. Je trouve que c'est biblique que les femmes, je sais que c'est biblique, c'est dans le titre, que les femmes plus âgées doivent enseigner les plus jeunes. Et c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être développer un peu plus. Pour ma part, j'ai demandé à une jeune femme de l'église qui est beaucoup plus jeune que moi, est-ce qu'on puisse se voir régulièrement, on partage un intérêt commun, et c'est la musique en fait, et puis après on partage, on apprend à se connaître, et moi je suis bénie, j'apprends beaucoup d'elle, c'est un partage parfait, c'est vraiment très sympa. Et j'aimerais encourager ceux qui n'ont pas ce genre de relation, qu'on soit plus jeune ou plus âgé, qu'on puisse rechercher une femme de notre génération et essayer de partager. Ce n'est pas toujours la femme âgée qui doit toujours tout dire, tout apprendre à l'autre, au contraire. Et je trouve que c'est une telle bénédiction. J'aimerais bien voir ça un peu plus. Mais bon. Autrement, je crois que j'ai dit ce que je voulais.
Merci beaucoup, Geneviève. Donc, Francine.
Alors, avant de vous parler de ma retraite actuelle, j'ai un petit peu envie de vous raconter comment je suis arrivée à mon métier. Donc, secrétariat. Alors moi, j'ai toujours beaucoup aimé lire et écrire, et à une époque, je tenais même mon journal intime. Et par contre, j'ai été très tôt fâchée avec les mathématiques. Ça, c'était quelque chose de... C'était récurrent, je comprenais pas, je suivais pas, j'étais pas assez logique, bref. Et lorsqu'il a fallu prendre une décision, choisir un métier, je pense que ces deux points m'ont vraiment orientée vers le secrétariat. Et pour la petite histoire, ma mère voulait que je devienne professeure d'allemand, et moi je voulais devenir coiffeuse. Donc voilà. Et je me suis donc orientée vers une filière professionnelle, un baccalauréat G1 à l'époque, technique administrative. Et je me rappelle quand je me suis retrouvée en classe de première devant ma machine à écrire mécanique à l'époque, je me suis dit, voilà, c'est ça. Et donc après le baccalauréat, j'ai trouvé rapidement du travail en Suisse. Et ensuite, ma carrière s'est déroulée un petit peu en pointillé, on va dire, avec la naissance des enfants notamment. Mais les enfants ont grandi et une fois qu'ils étaient tous les deux à l'école, j'ai rejoint rapidement le secrétariat de l'ABN avec Lucette et Rachel Uzer. Et lorsque mon dernier enfant a eu 11 ans, j'ai recommencé à travailler en entreprise. Donc je suis quand même restée à la maison une bonne dizaine d'années. Et les dernières années avant ma retraite, j'ai travaillé dans une agence de communication, publicité si vous préférez. Alors c'était très intéressant, j'ai appris beaucoup, beaucoup. Mais le stress était au rendez-vous chaque jour. Ça générait des tensions énormes au sein de l'entreprise et beaucoup de fatigue. Et donc, à cause de ça, je n'ai pas pu préparer ma retraite, faute de temps, des journées trop prises. Ou alors, les formations ou les séminaires qui étaient proposés avaient tous lieu pendant les heures de travail. Et donc, ça, c'était impossible. Il y avait une chose que je savais. Je voulais rejoindre le groupe Patchwork. Voilà. Et donc il y a 6 ans, lorsque je me suis retrouvée à la maison, ça a été très très difficile, parce qu'une agence de communication, ça vit, ça court dans tous les sens, le téléphone sonne constamment, et les journées à la maison étaient très longues, enfin me paraissaient très longues, et j'attendais de semaine en semaine le mercredi après-midi pour pouvoir aller coudre et tricoter en bonne compagnie. Mais petit à petit, le Seigneur a placé des choses devant moi. Mes journées se sont remplies et à l'heure actuelle, je participe à différentes activités tout en veillant à maintenir quand même un équilibre dans ma vie de couple. Voilà, je crois. Et ah oui, ce que je voudrais aussi peut-être préciser, pour moi, ça a été plutôt dans les activités qui se sont présentées devant moi, c'est fais ce que ta main trouve à faire. J'avais pas vraiment prévu un tas de choses, et puis voilà, le Seigneur a proposé des choses, et puis et voilà.
Merci Francine. À toi Claude, alors maintenant.
Comme je crois que j'avais touché tout à l'heure, la plupart des personnes de notre âge, à 14 ans, étaient déjà orientées vers la vie professionnelle, en quelque sorte. Et bon, juste pour l'anecdote, j'ai dit à mes parents que je voulais devenir cuisinier. Et ma maman, elle a dit, tu vas voir, tu vas travailler samedi, dimanche, jusqu'à 11h, minuit, tu n'auras pas dit de famille, c'est pas terrible. Elle m'a présenté ça en négatif. Quoi. Et finalement, elle avait raison. Ce genre de métier... On n'est pas à la maison, quoi. C'est arrivé quand même, après, en travaillant d'équipe, que Jeanne devait mettre les enfants au lit et qu'ils ne me voyaient pas, parce que je rentrais qu'à 11h30, minuit, ça, une semaine sur deux. Mais quand même, il y avait quand même une... On se voyait quand même régulièrement l'autre partie de la journée, quoi. Voilà, c'est ça. C'était le travail d'équipe... D'abord à la Manurin, puis ensuite à Peugeot, suite aux recommandations de Jean-Paul. En fait, le début de ma carrière à la Manurin, c'est que le salaire, il pouvait changer tous les jours. Parce que ça s'appelait le travail à la tâche. Et on avait une feuille avec le temps. J'étais tourneur, on avait 10 pièces à faire, 15, 20. Et il y avait marqué, une demi-heure par pièce. Alors 10 fois une demi-heure, c'est 5 heures. Et ceux qui pouvaient livrer en dessous de 5 heures, il y avait des pourcentages en plus. Et puis si on était débutant et on n'était pas habile, ben, il y avait des pourcentages en moins du salaire. Alors les commentaires qu'on entendait dans l'usine, ben, c'est des fous là-dedans. Parce que quand on avait fini un travail et qu'il fallait prendre le papier, chercher un nouveau travail, on allait courir pour chercher l'outillage. On avait 10 jetons, et il fallait on regardait ce qu'il y avait à faire, et en fonction de ça, on cherchait l'outillage. Ben les collègues, je les voyais, ils ne marchaient même pas dans l'usine. Ils couraient. Ça fait toujours de ça de gagner. Alors, c'était drôle. Moi, j'ai raconté ça à Jean-Paul, il a dit, écoute, tu viens, moi je suis chez Peugeot, tu viens chez Peugeot, là, le salaire, il est garanti. Voilà, c'était une entrée, c'était le grand luxe à Peugeot, parce que à la Manurin, on tâchait de trouver une caisse en bois quelque part à 9h et on s'asseyait un quart d'heure dessus pour dans la graisse, dans la saleté, n'importe à côté de la machine, on faisait notre casse-croûte et on repartait au bout d'un quart d'heure. Et tout le monde était nouveau à son poste. Alors quand je suis arrivé à Peugeot, hein, tu connais Niro, on avait des selfs, on avait une demi-heure de repas. Au début c'était bizarre parce qu'on commençait à 4h et puis il y avait déjà de la choucroute à 7h30. Alors, ça c'était un peu drôle. Alors le personnel a un peu rouspété. Au bout de quelques années, on pouvait manger à 11h le repas de midi. Alors ça c'était quand même nettement mieux. Mais il y avait quand même le stress parce qu'on ne pouvait pas avoir d'avancement si on ne respectait pas les temps. Là aussi, il y avait des temps. Le salaire ne dépendait pas de ça, mais l'avancement. Alors, on était toujours quand même pressé par le temps. Et le fait de me lever à 3 heures, commencer à 4 heures et rentrer à 1 heure et demie, j'ai tenu 10 ans. Et au bout de 10 ans, ben, il y a eu un problème de santé. J'ai dû arrêter de travailler complètement. Je mangeais, je ne gardais plus. Je ne pouvais plus. Je ne gardais plus les animaux. Il y avait une telle fatigue que tout s'est arrêté. Alors, j'ai dû arrêter. Et puis j'ai demandé à la Sécurité sociale si j'avais le droit de quitter Mulhouse. Et les enfants étaient en grand bas âge, alors j'ai eu la réponse positive à condition que la Sécurité sociale ne participe à aucun frais. Et vous savez où on s'est trouvé, toute la famille? Vous le devinez, non? À Roche. J'ai demandé à Roche si on pouvait aller là-bas, passer 15 jours. Alors on a passé 15 jours, je crois, à Roche pour me retaper un peu. Il y a eu un pépin, un gros pépin. Et je sais pas, on a fait. J'ai pas supporté, comme j'étais fragile, on n'a pas supporté un cassoulet en boîte, je crois. Et j'étais malade à mourir la nuit. Madame Goethal a appelé Jo Vourneau, qui a appelé le médecin, qui est venu en pleine nuit, à 1h, 2h du matin, pour me donner une piqûre, pour que ça s'arrête. Et voilà. Et Jo, extraordinaire. Il n'a pas quitté la chambre après le départ du médecin, sans avoir prié avec nous. C'est un point fort. J'ai senti ce que c'est la vie chrétienne, la communion fraternelle chez ce frère que j'ai sorti du lit à 1h du matin pour aller chercher le médecin, qui s'est pris le temps tranquillement de prier encore avant qu'il retourne dans son lit. Voilà. Mais ça c'est une parenthèse. Bon, après j'ai dû travailler de journée. J'ai travaillé longtemps de journée. C'était quoi, 7h30, 5h du soir, hein, voilà. C'était un équilibre de vie, mais malheureusement, ce que les personnes qui m'ont muté à un autre endroit pour que je puisse être travail de journée, ils ne m'ont pas dit que l'avancement était bloqué. Alors j'étais de journée, c'était bien, mais ils ne me permettaient pas de progresser dans l'entreprise. Voilà, c'était un... Alors finalement, on a prié, on a eu un entretien avec un supérieur parce que les quelques collègues qui étaient dans le même service, l'usinage pour rendre service aux autres, on était dans le même cas. Alors j'étais le porte-parole de ces personnes. Et quelques 5-6 jours avant, j'ai parlé à Danny Huser, mon beau-frère. J'ai dit, écoute, j'ai un rendez-vous important. Il faut que je parle pour moi, mais aussi pour les collègues, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui évolue. Et cet entretien a eu lieu. Ils ont fait venir un chef de service, un supérieur, qui avait tout l'ensemble sous ses ordres. Il est venu. Et à peine il était assis, il a dit... Il ne savait pas pourquoi on l'a fait venir, parce que le supérieur immédiat, là... Il a dit, écoute, tu peux venir, là, on a quelque chose à régler, comme si c'était... Alors, il est venu, et quand il a appris qu'on était là parce qu'on voulait, évoluer dans l'entreprise, passer l'échelon au-dessus, il a dit, ah, de toute façon, vous êtes au courant que dans ce poste où vous êtes, ça n'évolue pas plus que là. Ça s'appelait B2, à l'époque. Ouais. Et il croyait avoir réglé ça, comme ça. Et on a discuté une heure. Pendant une heure, j'ai dû parler avec cette personne. Et au bout d'une heure... Le responsable immédiat dit, bon, on se reverra dans 8 jours. Et dans 8 jours, il y a eu, pour la première fois, une réponse positive. Alors, c'était pas fini, parce qu'on devait passer un examen interne. On ne nous a pas dit simplement, vous pouvez, c'est bon. Non, j'ai dit, on va passer un examen. Alors, c'est encore une autre histoire. Et puis, finalement, il y a eu, comme je dis tout à l'heure, il y a eu... comment qu'on dit, Miro un truc économique, comment on exprime ça ? Un plan de départ suite aux baisses d'activité, hein, c'est ça. Et je me suis donc parti 3 ans plus tôt. Là, sans préparation, parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas pensé que c'était nécessaire. On s'arrête. Puis de toute façon, j'étais toujours occupé, je n'ai jamais ennuyé et c'était bon. Alors, d'abord, j'ai dormi pendant 2 mois. Je me couchais le matin après le petit déjeuner et je me couchais l'après-midi après le repas. Ça a duré 2 mois. Et puis après, j'ai vu la balance, ça allait vite, ça montait vite. Alors je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et puis je me suis remis à travailler, mais à la maison et puis à l'église. J'ai retrouvé un équilibre de vie. Mais il y a eu un problème où j'ai demandé un rendez-vous à Étienne Grosneau. Il y a eu un grand vide. Parce qu'on est dans les activités organisées, tout fonctionne, les horaires, ceci. Et puis j'avais un manque à l'intérieur de moi, c'était les relations avec Dieu. Voilà. Parce qu'avant, j'étais suffisamment occupé pour que je ne me suis pas rendu compte que cette relation spirituelle existait que très peu. Peut-être lire la Bible, peut-être participer à des réunions de prière, etc. Mais c'est... Je me suis rendu compte que cette participation était très limitée pendant tout ce temps. Et tout à coup, ce vide était là. Et puis, je suis allé voir Étienne. J'ai dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un grand vide vis-à-vis de mon Dieu, de mon Sauveur, de mon Créateur. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, cette relation, je ne l'avais pas cultivée avant, assez profondément, assez concrètement. Et tout à coup, j'ai vu qu'elle n'était pas là. Alors, il m'a fallu me battre pour ouvrir la parole, pour prier, pour construire une nouvelle vie de relation. Et c'est là-dedans que je suis maintenant, parce que ce combat, il ne s'arrête jamais. Mais ça m'a fait tout drôle de me retrouver dans un vide spirituel, parce que j'étais comblé par les activités de l'Église, de tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Et ça me remplissait du matin au soir, plus le travail professionnel, plus la famille. C'était rempli. Mais la relation avec Dieu, elle, n'était pas au rendez-vous. Et ça fait un choc. Mais on peut rebondir.
Merci beaucoup, Claude, pour ton témoignage. Liliane, vas-y.
Je suis intimidée à un nouveau participant.
Tu sais très bien, j'ai été un nouveau participant.
Mais normalement, c'est dans l'autre sens. Bon, alors j'ai fait des études de langue, allemand principalement et anglais, et j'aimais bien. Et ça m'a d'ailleurs été très utile jusqu'à présent, quand je voyage. Donc parallèlement, j'étais en faisant mes études, j'étais aussi surveillante d'externat, autrement dit pionne. Alors mon souci principal à cette époque-là était de trouver un travail rapidement et d'avoir la sécurité de l'emploi. J'ai donc passé des concours administratifs et j'ai réussi celui de contrôleur des impôts. Bon, c'était pas une vocation, hein. Mais j'étais vraiment satisfaite de ma situation et j'ai toujours été reconnaissante d'avoir un poste fixe. Et de plus, j'étais à Mulhouse, ce qui par la suite a été utile aussi pour mes parents. Alors j'aurais pu prendre ma retraite à 62 ans, mais j'étais vraiment pas pressée parce que j'étais plutôt bien au travail. Et j'appréhendais ce moment parce que je me suis dit que du jour au lendemain, je serais désœuvrée et j'avais vraiment peur de m'ennuyer. Puisque j'ai travaillé quand même pendant près de 40 ans à plein temps, donc 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, ce qui donnait un rythme à la semaine. Et se retrouver du jour au lendemain sans planning me semblait assez effrayant. Donc comme j'étais à l'aise au travail, j'avais décidé de rester jusqu'à 65 ans, donc jusqu'en 2021. Alors, fin 2019, j'ai eu des petits soucis avec une collègue qui m'a bien pourri la vie. Bon, c'était vraiment injuste, mais bon. Donc ça, c'était en fin d'année 2019. Et le 26 décembre, je me souviens bien de cette date, je me suis levée et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je continue à supporter ça alors que je peux m'arrêter de travailler? Et donc, j'avais décidé... Tout de suite, j'ai décidé que je demanderais ma retraite début janvier en revenant au travail puisque j'étais en congé. Et donc, ce même 26 décembre, j'ai rendu visite à Lucette, à Bethesda, et j'ai rencontré Yasmina. Et donc, je leur ai raconté mon histoire, que je voulais m'arrêter de travailler, mais que je savais pas ce que j'allais faire. Et Yasmina m'a dit, je crois que j'ai quelque chose pour toi. Et c'est comme ça que j'ai atterri à la compta au bureau. J'ai donc fait tout de suite ma demande de retraite dans la foulée et c'était prévu que je m'arrête en été, en juillet 2020, parce que je tenais à ce que je m'arrêter en été pour que ce soit plus agréable, que ce soit les journées soient longues, qu'on peut sortir et tout ça, quoi. J'avais tout bien planifié ça. Et entre-temps, donc, le Covid s'est invité avec le premier confinement. Et j'ai... Comme j'allais m'arrêter bientôt, j'ai continué à travailler en présentiel. On était, pour la petite histoire, on était 7 sur 35 personnes à être en présentiel. C'était les normes à cette époque-là. Mais je ne travaillais pas tous les jours, donc j'ai commencé à prendre un rythme un peu moins régulier. Et je me suis habituée petit à petit à ne plus avoir ces 5 jours, 2 jours, 5 jours, 2 jours. Quoi. Donc c'était bien, quoi. C'était une bonne préparation. Et puis donc voilà, je suis arrivée en retraite et j'ai commencé à venir travailler au bureau. Ensuite, il y avait un chantier au premier étage du presbytère. Il y avait un tas de petits trucs à droite et à gauche, le ménage, de temps en temps, de l'église. Et je me suis habituée facilement. J'étais tout de suite assez contente et j'ai trouvé un peu un rythme. Et j'ai aussi, ce que j'ai apprécié tout particulièrement comme Geneviève, c'est de ne pas être pressée le matin. C'est vraiment prendre son temps et c'est, voilà quoi, on n'a pas besoin de... J'ai eu beaucoup de mal au début à ne pas tout le temps me dire, il faut que je me dépêche, à prendre le temps. C'est vraiment, j'ai eu du mal avec ça, mais bon, c'est plus facile dans ce sens que dans l'autre. Et c'est vrai que mes journées se sont remplies rapidement. Et bon, pour beaucoup, effectivement, dans le cadre de l'Église. Et puis, on est pas mal ici. Alors, il y a beaucoup d'activités pour lesquelles je n'ai pas beaucoup réfléchi. Et c'est vrai que, comme Francine, j'aime assez l'expression « fais ce que ta main trouve à faire », mais quand même avec quelques nuances. Il y a des tâches pour lesquelles il n'y a pas besoin d'être un spécialiste. Des tâches où on a besoin de... Par exemple, je reviens au ménage, ça, on peut tous le faire, et c'est important d'y participer. Par exemple, chercher les dames, enfin les personnes à Bethesda. Il ne faut pas non plus être spécialement... Il faut avoir une voiture et le permis, c'est mieux. Et puis, bon, voilà. Et je pense aussi qu'il y a besoin d'avoir un appel particulier pour ce genre de choses, que, voilà, c'est, ça coule de source. Après, il y a d'autres choses pour lesquelles on est peut-être plus spécialement destiné, en fonction des dons qu'on a reçus. Et je pense que je suis assez bien à ma place au bureau, je pense. Ou alors aussi au service de collation, quoi. C'est, ça va, ça me va bien, ça, je pense. Après, on peut aussi se tromper parfois dans les choix qu'on fait. Et on peut peut-être aussi, dans un premier temps, être tenté d'en faire un peu trop. Mais bon, après, c'est pas grave. Hein. On peut... il faut se remettre en question de temps en temps. Et puis, on peut affiner au fur et à mesure. Et ce qu'il y a aussi, ce que je veux aussi dire, c'est que le fait d'avoir beaucoup de temps ou des journées à remplir, ça nous rend davantage responsables de ce qu'on fait et des choix qu'on fait. Et bien sûr, bon, on a aussi droit à des loisirs, évidemment, hein, et à faire... pas ce qu'on a envie de faire, partir en vacances par exemple. Et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une expression qui m'a vraiment frappée en parlant des dons qu'on a et qu'on devrait mettre à la disposition des autres, hein, c'est biblique. Et il y a quelqu'un qui a utilisé l'expression que si on ne le fait pas, c'est un détournement de dons. Donc après, juste pour toucher un mot des différentes phases de la retraite. Bien sûr qu'il y a différentes phases. Hein. Moi, je suis en tout début. Hein. Ça fait pas encore 2 ans. Mais pour le moment, je prévois rien à long terme. Je pense que, de toute façon, j'ai assez d'expérience pour savoir que la vie se passe rarement comme on imagine. Et puis, donc, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, en avant, tant qu'on peut.
Merci.
Donc, le travail était pasteur, éditeur, enseignant, donc pénibilité zéro. Hein. Vous voyez, des petits boulots tranquilles, bien que, hein, un pasteur, il a autant de patrons que de membres d'église, etc. Mais néanmoins, c'était pas quelque chose qui. C'est pas avec ça que j'ai perdu mes cheveux. Effectivement, ce qu'on a prévu ne vient jamais comme on l'a prévu. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a constaté. Néanmoins, on a quand même prévu certaines choses qui étaient finalement réalisées. Dans ma toute jeune adulte, donc il y a fort longtemps, j'avais lu qu'il fallait préparer sa retraite et qu'à 40 ans déjà, par exemple, il fallait savoir où on allait habiter pour la retraite. Je trouvais ça pas idiot du tout. On avait 40 ans quand on habitait à Mulhouse, et puis on a dit à Jacqueline Viennaire, écoute, si tu trouves un petit logement pour vieux, tu nous fais signe. Ascenseur, concierge, pas de jardin. Hein, vous voyez le truc. Hein. Et puis, effectivement, on nous a trouvé quelque chose, et c'est là qu'on habite maintenant. Donc ça, une chose est vraiment arrivée comme on avait pensé que ça allait arriver. Mais on trouvait que c'était important. Là, donc, comme dit, on a souvent déménagé, ce qui fait qu'on s'adapte facilement. J'ai vu des personnes qui ont rêvé à la retraite rejoindre leur village natal ou qui ont déménagé dans une belle région mais qui n'avaient pas les contacts. Et c'est la catastrophe, toujours la catastrophe. Donc, bon, nous, on se connaissait déjà un petit peu. On se connaît il y a 25 ans, puis maintenant, on reprend un peu contact. Donc on n'est pas venu dans un territoire étranger. Donc, ça, c'est aussi important qu'on ait pu vivre ça ici. À un moment donné, on pensait devoir aller en Allemagne. Là, on hésite déjà un peu plus. Voilà. Mais bon, c'est toujours pas loin encore de notre esprit. Mais disons, donc préparer la retraite, je pense que l'habitation, c'est important. Bon, pour vous qui avez vécu toute votre vie ici, c'est pas un problème. Mais pour d'autres qui voyagent, où est-ce que tu poses tes valises, donc quelque part, ben voilà où tu es bien. On se sentait bien à Mulhouse, on se sentait bien ici dans l'église. Donc on avait dit, on serait content de revenir et 25 ans après, on est là. Préparation à la retraite, une idée qu'on avait aussi, c'était un peu peur des finances. Qu'est-ce que tu auras comme finances quand tu seras à la retraite ? Le pasteur était payé au SMIC à l'époque de ma jeunesse, donc tu dis la retraite sur le SMIC, ça, c'est un peu peu. Bon, après, on n'a pas quand même vécu, hein, on a vécu que 19 ans comme pasteur au SMIC, donc après, ça s'est amélioré. Donc on a une situation qui est, qui est, qui qui est tout à fait convenable, mais ça, c'était une des craintes qu'on avait, hein, de se dire, mais est-ce qu'on va y arriver? Et finalement, là, on a eu peur pour rien. Ça s'est passé tout à fait autrement, ça se passe très bien. Les activités, alors, donc à 65 ans, donc j'étais pasteur dans une église là en Suisse, et puis à 65 ans, donc on aurait dû s'arrêter, mais l'église voulait qu'on continue, et on a pu continuer à mi-temps. Donc j'étais déjà à moitié à la retraite, c'était sympathique. Donc pendant ce temps-là, on venait ici à Mulhouse retaper le logement. Des fois, les membres d'église disaient, mais t'étais là la semaine, c'est les vacances ou quoi? Je dis, non, c'est mon mi-temps que je ne suis pas pasteur. Donc on voyait que les gens, ils avaient aussi un peu de mal à voir que le pasteur n'était pas toujours là. Enfin bon. Donc ça, c'était un apprentissage aussi pour eux. Mais donc on a pu lentement s'habituer à cela. Je trouvais ça aussi intéressant. Donc, effectivement, ça fait presque une année maintenant qu'on est à la retraite. C'est toujours trop bien. C'est toujours trop bien. Je peux que le recommander. Je peux que le recommander. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la retraite? Est-ce qu'on s'ennuie? J'avais, il y a quelques années, vu que le bénévolat dans une association tout à fait non chrétienne est quelque chose de très intéressant. Donc en venant ici à Mulhouse, je me suis dit, il faut que je retrouve quelque chose. Donc tous les lundis, je prends un peu de temps pour me promener avec un monsieur qui se remet d'un AVC. Voilà, une petite balade. Voilà. Le mardi, je suis ici avec les costauds du mardi. C'est très intéressant, ça, les retraités, si vous ne savez pas quoi faire. Hein, les costauds du mardi, c'est pas mal. Donc, ça nous occupe. Le vendredi, ben, j'ai rejoint un petit club de ping-pong. Voilà, on est tous des vieux, mais ils sont tous plus en forme que moi. Donc, ça commence à 14h. À 16h, moi, j'ai des choses importantes à régler. Je les quitte. Mais enfin, voilà. Et puis, le dimanche, de temps en temps, je prêche. Ma mère, maintenant, avec ses 94 ans, a besoin d'un petit peu d'être entourée aussi. Donc, bon, on habite à 3 heures de route d'ici. Donc, on y était aussi souvent ces derniers temps. Et on y sera peut-être encore. Mais bon, même là, le Seigneur a pourvu, a trouvé une solution à laquelle on n'avait pas pensé pour elle. Conseil pour la retraite, ben oui, ben il faut prévoir, je me dis, le logement, le lieu d'habitation. J'ai aussi vu, bon, alors, je ne connais pas vos situations de vie, mais je connais plein de personnes qui habitent dans des beaux logements avec 10 escaliers pour entrer et encore 2 étages à monter. Et finalement, après, l'arthrose, machin, truc, etc. Puis on habite dans les 2 chambres du bas, quoi. Et puis on dit, ouais, mais attends, tu savais que tu allais prendre de l'âge et que tu pourrais plus grimper les escaliers. Ah non, non, non. Là, je suis assez étonné de voir qu'il y a relativement peu, enfin, qu'il n'y a personne. Enfin, les seuls que j'ai connus, c'était mon père. À 60 ans, il a dit, je m'en vais en ville. Il était bien en forme encore. Je vais habiter en ville et le logement qu'on a, il y avait 3 marches dans le logement, je vais tout mettre à plat. On va refaire les travaux et tout ça. Je peux aller à pied chez le médecin, chez le pharmacien, à l'église et faire mes courses. Je n'ai pas besoin de voiture. Et je peux même aller à pied à l'hôpital. Donc, c'était pas loin. J'ai trouvé ça beau. Mais finalement, c'est pas idiot. C'est pas idiot. C'est pour ça qu'on est aussi à Mulhouse. Enfin, l'hôpital est loin, mais disons... Le boulangerie algérien n'est pas loin, l'épicerie turque n'est pas loin, donc on est bien là. On est en vacances toute l'année, on n'a pas besoin d'aller au bout du monde.
Merci beaucoup Mathias. Je propose maintenant un petit temps où peut-être juste entre vous, vous pouvez vous interpeller. Voilà, et puis après on aura le temps de partager avec l'ensemble de la salle. Et peut-être vous avez envie de rebondir sur quelque chose que vous avez entendu, vous avez soit vécu pareil, soit pas du tout, ou une pensée qui vous est venue, qui viendrait compléter un petit peu.
Ben moi j'ai aussi fait comme vous, j'ai quitté donc une maison, bon ça j'étais obligée, et j'ai acheté un appartement en ville, où il y a un ascenseur, où tout est aménagé, tout est à plat, où je peux venir à pied à l'église. Et c'est encore mieux parce que c'est collé à un EHPAD, au cas où. C'est le même parking.
Tu fais juste un trou dans le mur et c'est bon. Excellent.
Moi, je vais à l'EHPAD.
Tu viens de me rendre visite.
Je rebondis que... Parce que Liliane a dit, effectivement, le matin, on a le temps. Et c'était toujours un peu frustrant quand on va au travail. On sait qu'il faut prendre du temps avec le Seigneur le matin. On veut, hein, c'est pas, je ne me moque de personne. Mais ce qui est le bonheur maintenant, on peut vraiment, il n'y a pas cette contrainte le matin de partir au travail. Par contre, ok, on était longtemps dans le pastorat, je ne sais pas, 25 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais très prise par les activités de l'église, surtout à Aschbischren. Donc, j'avais, je reviens sur ce mot identité, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Une mission, notre but, et je ne sais pas si vous avez vécu ça, à la retraite, qu'est-ce qu'on fait? Alors toi, tu parles, tu as bien donné des exemples de ce que tu fais, tu es très prise. Moi, je cherche encore un petit peu. Je ne sais pas si vous avez une expérience à partager. Qui suis-je, dans un sens? C'est un peu ça. Qui suis-je à la retraite?
Et je pense, de toute façon, le danger est autant d'en faire trop que pas assez. Et ce n'est pas parce que j'ai le temps de matin que je fais ce que je devrais faire. Je n'ai pas encore tout à fait trouvé. Ouais. C'est vrai que je traîne le matin, mais... je fais des trucs des fois qui servent vraiment à rien, quoi. Donc, je sais que je perds mon temps.
Tu ne penses pas que ça va se tasser un peu?
Si, je pense.
Je crois que c'est au début.
Je ne suis pas non plus complètement désespérée, mais... mais je sais que j'ai des progrès à faire, notamment de ce que Claude disait aussi, pour trouver des moments où vraiment je ne suis pas distraite par autre chose.
Parce qu'on a tellement de temps.
Oui, et puis parce aussi parce qu'on n'a pas l'habitude. Enfin, moi, je n'ai pas l'habitude, quoi. J'ai... Et puis même maintenant, bah, je me dis, ah oui, c'est vrai, il faut que je sois à 9h à la bonne nouvelle. Et tout à coup, il est 9h moins le quart.
Heureusement, tu vis si près.
Quand on travaille, c'est les autres qui nous organisent, en quelque sorte. Ouais, là, quand on a la retraite, on peut s'organiser soi-même. Donc, est-ce qu'on devient de meilleurs êtres humains? La retraite fait de vous de meilleures personnes?
Je pense que c'est beaucoup plus simple quand on n'a pas besoin de prendre les décisions soi-même.
C'est... Quand le patron nous fait le programme, tu veux dire.
Oui. Oui, je ne suis pas le patron, c'est le
patron. J'ai le sentiment que l'adversaire est content quand on est suroccupé. Et alors, on oublie les relations avec notre Créateur, avec notre Seigneur. Et il faut se battre pour mettre le maître à la première place. Sinon, on dépérit, on se trompe de chemin, on se trompe de relation, on se trompe aussi. On passe à côté de choses que le Seigneur nous a préparées. Et c'est nuisible pour le salut de ceux qui sont autour de nous. Parce que le Seigneur ne chôme pas et... Il nous prépare des contacts, des relations. Et si nous, on est suroccupés, ben, on passe à côté de certaines relations que le maître a prévues pour nous. Et là, le raisonnement que j'ai de plus en plus, c'est que Dieu nous fait l'honneur. Il nous fait un immense honneur de nous donner la possibilité de s'occuper de personnes pour les guider vers le royaume des cieux. Et ça, c'est pas une... Des fois, on l'a ressenti comme une obligation, comme une... Comment qu'on dit? Pas une mission, une vocation, ou bien quelque chose qu'il faut faire. Mais non, c'est un honneur que le maître nous confie pour son royaume des personnes. Et j'essaie d'être conscient que c'est vraiment un honneur. Et que le maître a cette première place, et que, je ne sais pas, des évangélistes disaient, il faut prendre le temps le matin de rencontrer son Dieu, et de ne pas faire d'autres choses qui nous paraissent beaucoup importantes, et puis la matinée est passée. Et puis cette rencontre qu'on aurait dû avoir n'a pas eu lieu, parce qu'il y avait tel rendez-vous, il y avait ça, il y avait ci, il y avait ci, cela, et puis on passe à côté. Il est toujours après, oui. Il y a ça qui presse, et puis voilà. Alors, le Seigneur nous aide, et j'ai besoin d'être aidé à gérer mon temps pour mettre à la première place ce qui doit aller à la première place. Et si on prend le temps de prier pour des personnes, tout à coup, il se passe des choses surprenantes qu'on n'a pas préparées. Mais la personne... J'ai un voisin avec qui j'ai jamais parlé, Il y a un immeuble collectif, 4 étages, et puis nous, on est dans une maison individuelle. J'étais à genoux, par terre, en train d'asperger du vinaigre sur la mauvaise herbe qui dépasse entre les pavés. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me parle, et la personne passe sur le trottoir et m'adresse la parole. Et ça y est, on a commencé à parler ensemble, et j'ai appris qu'on n'était pas trop loin l'un de l'autre dans l'usine et que c'était jamais parlé. Ouais. Et l'adversaire est venu et il nous a coupé cette conversation, mais j'ai regretté ça. Mais c'est monstrueux comment l'adversaire, il nous mine la vie. Il y a un autre voisin qui est arrivé vers sa voiture et elle était en panne et ça ne voulait pas démarrer et tout. Et nous étions en discussion. Alors, on se parlait comme ça, d'ici jusqu'au mur. Et puis après, je me suis rapproché de lui et j'ai laissé tomber cette personne qui était pour la première fois un bon contact. Et on voit comment l'adversaire, il agit pour nous détourner. L'autre aussi, il m'a adressé la parole en même temps, par-dessus la rue. Et alors je suis allé voir, et quand je me suis retourné, la personne n'était plus là. Alors ça m'a fait mal. Et bon j'ai compris qu'il fallait avoir une relation avec cette personne qui habite au deuxième, je crois, de l'autre côté. Alors j'ai eu le courage, quelques jours plus tard, de faire le tour de l'immeuble, de sonner, d'aller le voir. J'ai dit, écoutez, je m'excuse de vous être laissé tomber. C'est pas correct de ma part. Ah, il dit, oh, ben, c'est pas grave. C'est pas important. Mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. Alors je dis. Et puis il n'arrivait pas à le dire. Il n'était pas bien. Il était un peu dépressif. Il marmottait quelques mots. Et sa femme. Je dis, je ne comprends pas ce qu'il veut. Et sa femme dit, mais dis-lui donc. Et puis ils se sont parlé en espagnol. Je ne sais toujours pas ce qui ne va pas. Mais à partir de ça, maintenant, ma femme et moi, on le sait qu'il faut qu'on prie pour cet homme qui ne va pas bien. Il y a quelque chose qui tourne pas rond et il ne faudrait pas qu'il sombre complètement. Et voilà, le Seigneur nous conduit. On prie pour le voisinage et le Seigneur nous conduit. Et c'est vraiment vrai que quand on s'adresse à notre maître, il fait des choses surprenantes. Nous avons eu le décès de 2 personnes à côté de nous. Monsieur est décédé, et puis sa femme est décédée un peu plus tard, la famille Fat, et la maison était vide. Et on a prié, Jeanne et moi, pour les nouveaux venus, les nouveaux occupants. Et un des fils, a mis au moins 3 mois pour vider la maison, parce que c'était plein d'en bas jusqu'en haut. Et petit à petit, des gens sont venus visiter. Et nous, on a prié. On a prié, ben, le Seigneur fait qu'on puisse avoir des voisins avec lesquels on s'entende bien. Et puis, il y a des gens qui ont défilé. Vous savez comment ça se passe. Hein. Et puis, finalement, le fils a dit, ça y est, on a pris quelqu'un du quartier. Une famille qui était venue de la Turquie il y a 20 ou 25 ans. Ils ont absolument voulu une maison. C'est 3 frères, en fait, qui ont créé une entreprise. Et l'un de ces 3 frères a acheté la maison. Et tout de suite, il a cherché à nous parler. Et puis moi, je ne suis pas forcément timide. Hein. Alors, on a eu de très bons contacts. Et puis le Ramadan est arrivé, parce qu'ils sont musulmans. Le Ramadan s'est déroulé, première semaine, etc. Puis ça sonne, à 8h30, il faisait nuit, ça sonne. Je dis, mais qui c'est qui vient nous voir? Je regarde, c'est le voisin. Il vient avec un grand morceau de pain, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce pain qui est plat, comme ça. Le pain du Ramadan, il n'est pas haut, il est très bon. Alors j'ai dû sortir sur le trottoir et je l'ai remercié. 8 jours après, il sonne. On a un deuxième pain. C'est toujours le Ramadan. Voilà. Eh bien, ben, j'ai dit, mais vous êtes extraordinaire.
Et tu es devenu musulman.
Non, mais c'est pas pour...
À Noël, ils vont lui apporter des bretelles à la salle.
Mais c'est surprenant, la gentillesse et la l'amitié. J'ai pu construire une amitié aussi vis-à-vis de ces personnes, parce qu'ils avaient des gros problèmes dans la maison et tout, évacuation.
Il s'appelle comment ton voisin?
Ekensie. Ekensie.
Ouais, voilà. Donc, si on a quelques questions, voilà, aussi à poser, ou des réactions, voilà, ou quelque chose à dire, échanger, voilà, c'est aussi le moment qui nous est donné à tous pour pouvoir participer. Donc voilà, on va pas tarder non plus, on va se donner 5-10 minutes, puis après on prend un chant et puis ça conclura notre soirée.
Je trouve aussi un équilibre à trouver quand je suis un peu comme à peu près, j'étais à la retraite en même temps que toi, Liliane. Et du coup, les 2-3 années qui ont précédé, c'est la maladie qui m'a fait arrêter le travail pendant quelques mois. Mais la retraite effective, c'était fin juin 2020. Et je trouve que c'est pas évident de trouver un équilibre quand le conjoint travaille et que l'autre est encore à la retraite. Parce qu'on a des rythmes différents et on est, dans la tête, c'est pas la même chose. On a l'impression qu'il y a toujours un train qui continue et un autre qui freine à côté, qui essaye en tout cas. Et c'est pas toujours évident. Voilà, je ne sais pas comment. Vous êtes dans ce cas.
Je confirme aussi.
C'est pas simple.
Je crois que ça participe au fait, personnellement, je n'étais pas bien pendant un long temps. Et puis le fait de se trouver du jour au lendemain sans quelqu'un qui te dise que tu dois faire, c'est très très dur. Pendant 60 ans, tu as toujours quelqu'un qui. Tu as des talents à dire. Du jour au lendemain, ben, c'est très dur.
Je peux confirmer dans le sens où André était en retraite 3 ans avant moi.
Oui.
Donc il était pendant 3 ans seul à la maison. Bon, on se levait ensemble le matin, mais après, il partait se recoucher. Donc moi, je partais au boulot et j'avais toujours ce rythme et presque effréné, on va dire, de la journée. Et du coup, lui, il était, voilà, il a profité à fond de sa retraite. Hein. Il n'a jamais regretté, je crois, d'avoir arrêté. Et là aussi, on n'arrivait pas trop à vivre vraiment ensemble. Parce que moi, j'ai toujours la tête voilà, dans ce que je n'ai pas fait, ce que je devais encore faire. Et lui, il était dans ses lectures, dans son calme, dans ses jeux. Voilà. Donc c'est un moment difficile.
Et même pour celui qui travaille encore, d'ailleurs, parce que je partage complètement la vie de
Christine. Absolument.
C'est pas évident, parce que du coup, moi, j'ai mauvaise conscience. Je me dis, mais là, finalement, elle est toute seule. C'est pas marrant pour elle et tout. Puis en même temps, bah. Ouais.
Et c'est pas forcément que l'autre n'a pas l'activité, mais on est simplement pas sur la même longueur d'onde.
Oui, c'est ça.
On a l'impression que ce sont deux trains qui roulent à côté, mais les rythmes sont différents. J'apprécie aussi comme Geneviève et Liliane de ne pas avoir forcément une heure pour être debout ou alors en activité, un réveil, pas seulement un réveil qui sonne, mais quelque chose d'un peu trop carré parfois, ouais. Avec le travail.
C'est notre rythme.
Et puis de pouvoir se dire si un jour on veut partir, on peut. Pas forcément sur des vacances scolaires. Ou...
Ouais.
Ça, c'est pas mal. Des choses que
tu viens m'en profiter.
Et je viens m'en profiter.
Est-ce que c'est un mythe des fois de se dire à la retraite j'aurai le temps de faire ça, une passion qu'on n'a pas forcément le temps de vivre à fond, etc. Est-ce que vous avez vécu un petit peu ça ou pas?
C'est pas un mythe, c'est vrai. Sauf qu'il faut faire des choix, quoi. Mais bien sûr qu'on a le temps. Bien sûr.
Parce que effectivement, nous avons la contrainte de la belle-mère actuellement. On peut pas aller trop loin, on peut pas aller trop longtemps.
Bon, maintenant j'ai plus de temps pour faire du sport, mais j'en fais pas. Je trouvais intéressant, quelqu'un disait une fois, ouais, vous les pasteurs, c'est facile de lire la Bible, vous faites que ça toute la journée, hein, vous êtes payé pour ça. Et puis vous avez le temps pour ça. Et puis le pasteur qui répondait, ouais, le samedi, toi, tu lis aussi beaucoup la Bible, hein, donc les vacances. Comme quoi, c'est pas parce qu'on a le temps qu'on fait toujours, enfin, voilà, qu'on fait toujours ce qu'on voudrait faire. Ce que la conscience nous dit qu'on devrait faire.
Mais on peut. On ne peut plus dire qu'on n'a pas le temps parce que ce n'est pas vrai. Puisqu'on se remplit les journées nous-mêmes.
Mais c'est passionnant aussi. Hein. Je trouve que c'est passionnant parce que chaque jour peut être différent de l'autre.
Oui.
Alors quand tu as le nez dans le guidon, tu cours, et pendant 40 ans que tu cours. Et après, je trouve ça. On se réinvente tous les jours. Enfin, on essaye, quoi. Et on essaye, si on se casse la figure, c'est pas grave. Il n'y a pas le patron qui te tape dessus. Et en fait, tous les jours, tu trouves quelque chose de nouveau. En fait, c'est le nouveau qui est attractif à ce niveau-là. Je veux dire, on peut essayer plein de choses. Puis après, on laisse tomber parce que c'est pas pour nous. Alors, on recommence autre chose. Et ainsi de suite, quoi. Et le rythme aussi, j'apprécie beaucoup le matin. Prendre mon café tranquillement, bouquiner, et après commencer vraiment. Quoi. Enfin, on commence déjà vraiment. Voilà, c'est bien.
C'est alors, bien. Vous avez compris, il ne faut pas téléphoner aux retraités avant 11h du matin.
Ah non, mais je prends mon temps, mais en fait, je suis rarement levée après 7h. Parce que je me réveille.
Ah bah ça, c'est trop bien, ma chère.
Mais je traîne. Mais je traîne.
Voilà. Ah oui, c'est ça. Je suis des fois insomniaque quand même la nuit. Parce que c'est vrai que quand on a son rythme, on fait une fois 10 heures par jour. Après, la nuit, bon, c'est aussi intéressant d'être éveillé la nuit. On peut faire aussi des choses. Mais bon.
J'ai tout téléphone des fois.
Ah non, moi je dors la nuit, mais en fait, si tu veux, on est complémentaires. Mais...
Et bien le jour.
Non, je dors.
Le matin, souvent, quand même, parfois.
Oui, on peut faire la grâce.
Non, mais moi, à 3h du matin, je dors. Clairement.
Tant mieux.
Yeah. Elle, non.
C'est fait pour.
En fait, vous êtes complémentaires.
Mais c'est ce que je dis. Ouais. C'est ce que je dis.
Ok, ben, grand merci à vous. Hein, voilà, et puis pour ces temps d'échange, de partage. Voilà. J'espère qu'on peut tous repartir avec une petite idée, une petite piste, un point de vigilance, etc. Surtout, moi, en tout cas, pour ma part, moi, je retiens. De ne pas attendre voilà, la retraite aussi pour vraiment prendre le temps, comme tu le disais, Claude, aussi avec le Seigneur, etc., et pas forcément vouloir être dans, tout le temps dans une forme d'activité, mais aussi voilà, effectivement prendre ce temps aussi de cultiver notre relation avec Dieu. Et puis je vous propose justement pour cela de conclure par un cantique qui est le 320.